When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Notre invité du jour est avocat au barreau de Paris depuis 2003. Avocat en droit du travail et en droit pénal, il fut membre du conseil de discipline des avocats de Paris de 2018 à 2023, ancien membre élu du conseil national des barreaux de 2015 à 2017, ancien membre du conseil de l'ordre des avocats de 2013 à 2015, auteur du livre « Le procès au conseil de prud'homme » paru en 2018. Il cumule près de 320 000 abonnés sur TikTok, plus de 60 000 followers sur Instagram, 30 000 abonnés sur LinkedIn. Maître Avi Bitton, bonjour.
Bonjour.
On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui sur le podcast Anomia. Vous êtes l'un des avocats les plus en vue en France actuellement, notamment sur les réseaux sociaux. La première question que je vous pose, c'est celle qu'on pose à tous les avocats qui passent sur le podcast. Qui étiez-vous avant de devenir avocat ?
Avant de devenir avocat, j'étais... un élève en difficulté au collège. Je n'ai pas eu mon brevet des collèges.
Okay.
J'ai été orienté en BEP-CAP de vente après le collège. Donc je suis allé dans un lycée technique et professionnel. Et puis là, j'ai eu un déclic quand même. Je me suis dit qu'il était peut-être temps que je me ressaisisse. Et les hasards de la vie ont fait qu'à la même période où je me suis ressaisi, mes camarades de classe, sans que je me présente aux élections pour être délégué de classe, m'ont élu délégué de classe parce qu'ils estimaient que j'étais le mieux à même de porter leur voix et de les défendre dans les conseils de classe et aussi dans les conseils de discipline.
Ok, incroyable. Ok, et donc du coup, à partir de ce moment-là, vous avez eu un déclic une fois élu délégué de classe, vous dites bon là j'aime bien défendre mes camarades. Et est-ce que ça a été un peu votre pied à l'étrier, ou en tout cas ce qui vous a décidé à devenir avocat,
encore trop tôt? Je me suis pris au jeu de défendre mes camarades en conseil de classe, en conseil de discipline, et il y a même des professeurs qui, avec un ton un petit peu moqueur, m'appelaient Maître Bitton.
Ok, c'était prémonitoire.
Voilà.
Et donc, par la suite, vous passez du coup au cycle universitaire. Comment vous vous dirigez du coup vers
votre
étude en droit ?
D'abord, effectivement, j'obtiens mon BEP-CAP de vente.
Okay.
Et je voulais prendre ma revanche sur la vie. J'ai repassé en candidat libre mon brevet des collèges et je l'ai eu.
Okay.
Après les BEP-CAP de vente, je passe en ce qu'on appelle à l'époque une première d'adaptation. Et après cette première d'adaptation, j'arrive à aller en terminale STT. À l'époque, c'était sciences et technologies tertiaires. Pour les vieux, c'est ce qu'on appelait à l'époque le bac G, le bac poubelle, le bac commerce. Donc, j'obtiens le bac STT avec mention, voilà, premier de mon lycée, etc. Et là, je décide de m'orienter vers la faculté de droit. Et à l'époque, quand je fais ce choix-là, je me souviens de la conseillère d'orientation qui me dit « Monsieur Bitton, vous ne passerez pas Noël. » Vous allez vous retrouver avec les bacs scientifiques, les bacs économiques, littéraires. Vous ne passerez pas Noël. C'est statistique. Et j'ai tellement eu peur. Et à la fois, j'ai tellement eu la rage qu'elle me dise ça. C'était un mélange de peur et de colère. Et je pense que ce mélange est très bon dans la vie, la peur et la colère, que j'ai travaillé comme jamais en faculté de droit. Et à la fin du DEUG, parce qu'à l'époque, c'était le DEUG en 2 ans, je suis arrivé deuxième de la faculté Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur une promotion de 1200.
Wow.
Et à partir de là, j'ai été sélectionné pour faire un magistère. Vous savez, c'est cette formation qui prend les meilleurs de la fac. Et à peu près chaque année, je suis arrivé dans les 3 premiers du magistère, sauf, je crois, la dernière année où là, je suis arrivé 6e ou quelque chose comme ça.
Donc, l'envie de prouver à vous-même et aussi aux autres que vous en étiez capable, en quelque sorte.
Je pense que j'ai eu ce qu'on appelle un déclic. Et c'est pour ça que je suis très critique sur ce système actuel de Parcoursup où très tôt, trop tôt, on catalogue les élèves, on les met sur des rails, on les prédestine à un avenir alors que tout peut changer. On est maître de notre destin. Tout peut changer à tout moment.
Et est-ce que pour vous, du coup, vous engagez dans le droit pour devenir avocat, c'était un peu une vocation pour vous? À quel moment vous avez senti vraiment ce besoin? Vous vous êtes dit, c'est vraiment le métier que je veux faire, j'ai ça en moi. Qu'est-ce qui vous a poussé vers l'avocature?
Je suis convaincu que tout le monde, peut-être sans le savoir, a une vocation d'avocat. Une vocation d'avocat, c'est ressentir un sentiment d'injustice et un sentiment de révolte face à l'injustice et vouloir réparer cette injustice. C'est un sentiment universel. Tout le monde partage ce sentiment. Les magistrats, les avocats, n'importe quel citoyen, on se révolte tous face à une injustice. Après, effectivement, on choisit sa voie. Soit on se dit, bon bah, tant pis, la vie est faite d'injustice, je vais faire autre chose, je vais faire du commerce, je vais gagner de l'argent. Soit on se dit, bah, non, je vais réparer cette injustice, je vais devenir magistrat, procureur ou avocat. Et c'est ce que j'ai choisi.
Ok. Et du coup, par la suite, vous devenez avocat, vous prêtez serment et vous entrez dans un cabinet, Clifford Chance. Ça a duré 2 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette première expérience en cabinet?
Je pense que ça a été une expérience pour moi et pour eux. Donc effectivement, après l'université de la Sorbonne, je fais un Master of Law, un LLM à la London School of Economics à l'université de Londres en droit bancaire et financier. Et je commence comme avocat collaborateur chez Clifford Chance, qui à l'époque est le plus grand cabinet d'avocats du monde, dans l'équipe financement structuré. Donc je faisais des crédits syndiqués, des titrisations, des produits dérivés. C'était passionnant, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses, mais ça a été aussi mon baptême de droit du travail, puisque j'étais avocat salarié là-bas et que j'ai décidé à un moment donné de devenir représentant syndical.
Okay.
Puisque j'étais avocat salarié, je pouvais devenir représentant syndical. Et effectivement, j'ai commencé à ce moment-là à défendre les droits des avocats collaborateurs, des cadres. C'est comme ça vraiment que je suis tombé dans la défense des cadres et je n'en suis jamais sorti depuis 20 ans.
Du coup, vous êtes à Paris et en 2005, vous décidez du coup d'ouvrir votre cabinet à Paris. Et vous, du coup, vous êtes avocat en droit du travail, en droit pénal. Et du coup, vous décidez de continuer votre route, mais du coup en indépendant, en 2005.
Alors effectivement, quand j'ai pris cette décision, j'avais 29 ans, j'avais à peine fait 2 ans en cabinet d'avocat. Tout le monde me disait, mais tu es fou, tu n'as pas de fortune personnelle, tu n'as pas de clientèle ou de réseau particulier. Tu n'es pas suffisamment formé, comment tu vas faire? Et en fait, je n'ai pas écouté tous ces oiseaux de mauvaise augure, j'ai écouté un confrère, qui peut-être se reconnaîtra, qui à l'époque m'a dit, tu sais Avi, de toute façon, c'est jamais le bon moment pour s'installer. Soit on a un crédit immobilier, soit on vient d'avoir des enfants, soit on n'est pas assez formé, soit au contraire on s'est trop formé de manière spécialisée dans un domaine et on ne sait rien faire d'autre, soit on n'a pas de clients, soit on n'a pas suffisamment de réseau. ça n'est jamais le bon moment. En réalité, pour s'installer, il faut avoir un brin de folie. Ça n'est jamais une décision raisonnable. C'est toujours une décision un peu folle, un petit peu risquée. Mais je me suis dit que finalement, le plus tôt on saute du nid, le plus vite on apprend à voler.
Effectivement. Et puis on entend la même chose également pour les entrepreneurs. Lorsqu'ils veulent se lancer, c'est jamais le bon moment. On manque de trésorerie, c'est toujours très risqué. Mais effectivement, la meilleure manière d'apprendre, c'est de se lancer. Et du coup, vous ouvrez votre cabinet, vous êtes seul à ce moment-là, vous vous associez ou...
Alors, quand je m'installe, je suis seul, mais très rapidement, je comprends que embaucher, c'est un facteur de développement. C'est-à-dire que embaucher au début des stagiaires, puis des collaborateurs, et puis maintenant j'ai associé certains de mes collaborateurs, c'est un moyen de se dégager du temps pour pouvoir faire du développement de clientèle, se concentrer sur les dossiers importants, voilà, vraiment développer un cabinet. Et si vous voulez, à chaque fois que j'ai fait une embauche, je n'en avais pas les moyens. C'est-à-dire que l'erreur à ne pas commettre quand on crée un cabinet et qu'on veut se développer, c'est d'attendre de faire suffisamment de chiffre d'affaires pour embaucher. Non, il faut être en tension permanente, il faut accepter ce vertige, il ne faut pas avoir peur du vide. À chaque fois que j'ai fait une embauche, je n'en avais pas les moyens. Mais comme j'embauchais et qu'à la fin du mois, je devais payer le salaire, eh ben, je peux vous dire que je me débrouillais pour trouver des clients.
Alors, c'est assez intéressant parce qu'à ce moment-là, on est à peu près en 2005, un peu plus tard peut-être, 2005-2006. Vous étiez avocat salarié, vous vous lancez à votre compte, vous êtes indépendant. Comment vous faites au début pour trouver vos premiers clients? On est à peu près à l'époque du boom d'Internet. Les avocats, c'est principalement du bouche à oreille à cette époque-là. Comment vous faites pour vous faire une place dans le milieu parisien?
Alors, effectivement, comme je l'ai dit, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de réseau. Je suis le premier avocat dans ma famille proche. Et donc, je vais vous dire tout simplement, nécessité fait loi. Quand on n'a pas le choix, on cherche. Et quand on cherche, on trouve. Donc, effectivement... Très rapidement, je suis allé sur Internet. On était au tout début de l'Internet. Beaucoup d'avocats croyaient en cette légende urbaine selon laquelle un avocat n'a pas le droit de faire de publicité. Ce qui est faux. Les avocats ont toujours eu le droit de faire de la publicité, simplement elle est réglementée. Et donc, effectivement, j'ai été parmi les premiers à aller sur Internet, à toucher des clients sur Internet. Et j'ai très vite compris qu'Internet était un puissant fond en termes de clientèle parce qu'il y a beaucoup de justiciables qui cherchent leur avocat sur Internet parce qu'ils cherchent l'anonymat. Lorsqu'une personne est convoquée par la police, elle ne va pas ébruiter cela dans son entourage. Elle va rechercher l'anonymat d'Internet pour trouver un avocat que personne ne connaît dans son entourage. Et de la même manière, lorsqu'un cadre est menacé de licenciement, il ne va pas chercher dans son entourage, il préfère effectivement la discrétion et il va aller chercher son avocat sur Internet.
Et ça, est-ce que vous l'avez compris dès le début ou bien est-ce que c'est venu avec le temps? Parce qu'aujourd'hui, vous avez votre cabinet à plus de 20 ans. 2005, ce n'est pas du tout la même chose que 2024. Comment vous avez vu et comment vous êtes adapté du coup à toutes ces évolutions au cours de ces 20 dernières années?
Écoutez, il y a une règle en matière de marketing, c'est qu'il faut tester. Il faut tout tester et ça n'est qu'une fois qu'on a testé qu'on comprend ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc moi, effectivement, j'ai testé Internet. Très rapidement, alors que j'étais tout jeune avocat à peine installé, j'ai eu un dossier criminel à la cour d'assises et j'ai eu une négociation de départ d'une cadre supérieure dans une grande entreprise américaine. Donc là, effectivement, le test a été concluant et j'ai très vite compris qu'il fallait investir sur Internet.
Ok. Et donc, du coup, très rapidement, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est très rapidement, vous nous le direz, mais ouais. Vous êtes reconnu comme l'avocat des cadres en droit du travail, notamment grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est une voie que vous avez décidé de poursuivre parce que c'est un segment de marché que vous avez identifié comme étant porteur? Ou bien alors, est-ce que c'est venu aussi de par, du coup, une vocation personnelle de vouloir défendre les cadres?
C'était une vocation personnelle, si vous voulez. J'ai été cadre salarié dans une multinationale j'ai eu un conflit du travail, j'ai réussi à négocier mon départ, et là, si vous voulez, ça a été mon baptême. Les meilleurs avocats en droit de la famille, c'est des avocates, souvent, qui ont divorcé. De la même manière, je pense que les avocats qui ont été cadres salariés, qui ont eu un conflit du travail, qui ont négocié leur départ, font d'excellents avocats ensuite en droit du travail. Ça a été mon cas.
Donc oui, c'est aussi porté par votre vécu que vous avez décidé de poursuivre cette voie. Ok. On est en 2018. Vous rédigez un livre, Le procès au conseil de prud'homme. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre ?
Alors, c'est assez drôle parce que j'ai écrit un livre sur le procès au conseil de prud'homme aux éditions LGDJ, alors qu'en réalité, la plupart de mes dossiers de cadre en droit du travail, je les négocie à l'amiable. Le procès est l'exception. Et d'ailleurs, les cadres qui viennent me voir ne veulent pas aller au procès. Ils ne veulent pas d'une procédure au prud'homme. Ce qu'ils veulent, c'est négocier vite et bien. Et c'est ce que je leur obtiens le plus souvent. Mais effectivement, parfois, l'entreprise s'entête et il faut la ramener à la raison en l'amenant devant les tribunaux. Donc effectivement, j'ai rédigé cet ouvrage sur la procédure au conseil de prud'homme.
Oui, parce que ce qui est important de dire, c'est que les cadres qui viennent vous voir et qui vous demandent de l'aide n'ont pas forcément envie d'aller au litige, c'est ça, avec leurs employeurs. Ils préfèrent un cadre...
Ils préfèrent un accord discret, confidentiel, qui protège leur réputation professionnelle et qui, souvent, en pratique, nous permet de leur obtenir des indemnités plus élevées que celles qu'ils auraient obtenues au prud'homme. Peut-être, parce qu'en plus, la procédure est aléatoire. On n'est jamais sûr de gagner.
Est-ce que vous avez des exemples concrets de dossiers sur lesquels, qui sortent un peu de l'ordinaire, où vous avez pu aider des personnes dont vous êtes particulièrement fier, dans le cadre du droit du travail ?
Oui, j'en ai régulièrement, en fait. J'en ai pas un précisément qui me vient à l'esprit, parce que régulièrement, effectivement, j'ai des cadres supérieurs qui ont 10, 15 ans d'ancienneté, qui ont des salaires confortables de 300 ou 400 000 euros par an, mais qui viennent me voir parce qu'ils sont véritablement en souffrance, parce qu'il y a eu un changement de direction et que la nouvelle direction les met à l'écart pour placer ses hommes, parce qu'il y a une réorganisation dans laquelle on va changer leur rôle, leur fonction, ou parce qu'ils subissent carrément une forme de harcèlement moral pour les pousser à la démission. Et moi, ma plus grande satisfaction, c'est de les voir au début dans ce sale état dans mon cabinet, mais de les revoir ensuite 1 mois, 2 mois, 3 mois, parfois 6 mois plus tard, lorsqu'ils reviennent signer une rupture conventionnelle, une transaction avec des indemnités qui les sécurisent financièrement pour l'avenir. Là, voilà, je me dis que j'ai accompli ma mission.
Quel est votre regard sur la situation du monde du travail en France ? On dit souvent qu'en France, les salariés sont parmi les plus protégés au monde. En tant qu'avocat en droit du travail, quel regard vous avez là-dessus ?
Alors, j'ai peut-être le regard biaisé d'un médecin qui ne voit que des malades. Mais en tout cas, pour ce que moi j'en vois, je trouve que le monde du travail est très violent. Les salariés qui abusent du système, qui ne travaillent pas, qui touchent des allocations et des indemnités indues, pour moi, c'est un mythe. Ça ne correspond pas à mon expérience depuis 20 ans. Moi, ce que je vois depuis 20 ans, c'est un management violent, brutal, basé sur des chiffres, de la rentabilité, qui fait fi de l'humain et qui peut vraiment détruire des gens. Et moi, mon travail, c'est de réparer ça, c'est de réparer cette injustice.
Et vous trouvez que sur vos 20 ans du coup, de pratique, vous avez remarqué que cette tendance s'accentuait du coup, vers ce management un peu toxique ou bien alors est-ce que vous pensez qu'avec notamment le Covid, il y a eu un petit changement notamment dans certaines entreprises avec le télétravail, on parle de bien-être de plus en plus. C'est quelque chose que vous ressentez ou c'est un mythe ça également ?
Je pense que dans les entreprises comme dans les cabinets d'avocats, le Covid a tout de même un petit peu changé la donne. C'est-à-dire que aujourd'hui, les cadres ou les avocats collaborateurs recherchent une qualité de vie, un équilibre et que notamment les avocats collaborateurs n'acceptent plus de travailler avec un statut précaire, incertain, un statut de collaboration libérale où on peut les congédier du jour au lendemain sans motif, sans entretien préalable et le tout sans assurance chômage. Les cabinets d'avocats connaissent une situation qu'ils n'ont jamais connue. Ils n'arrivent plus à recruter des avocats collaborateurs. Les avocats quittent la profession, vont en entreprise parce que la profession a échoué à rééquilibrer la relation de collaboration. La profession d'avocat, l'Ordre des avocats de Paris et le CNB ont échoué à mettre en place une assurance chômage pour les avocats collaborateurs. Aujourd'hui, un jeune avocat préfère aller en entreprise où il est protégé par le Code du travail, où il aura une assurance chômage en cas de licenciement, plutôt que d'aller travailler comme collaborateur libéral dans un grand cabinet d'avocats où il n'y aura aucune règle, où on pourra le congédier sans motif et où, en plus, il n'aura aucune sécurité financière car aucune assurance chômage.
Après, c'est un monde du travail qui a du, notamment le monde des juridiques et des avocats, c'est un monde qui a du mal à se réformer. Il y a aussi des côtés positifs, du coup, être à son compte, être collaborateur. Est-ce que vous pensez que c'est un monde qui va pouvoir se réformer dans les années qui viennent ou est-ce que vous pensez que ce statu quo va perdurer et qu'on va rester dans la situation dans laquelle on est actuellement?
Écoutez, j'ai fondé le syndicat manifeste des avocats collaborateurs, le MAC. Je l'ai fondé en 2011. Depuis maintenant plus de 13 ans, nous militons pour la mise en place d'une assurance chômage pour les avocats collaborateurs. Le système est simple, il existe ailleurs, il est faisable financièrement. Il faudrait que, au moins à Paris, l'Ordre des avocats de Paris contracte avec une compagnie d'assurance privée pour mettre en place cette assurance perte de collaboration qui couvrirait automatiquement tous les avocats collaborateurs sans qu'ils aient besoin de la souscrire. Eh bien, malheureusement, malgré nos propositions depuis plus de 10 ans, l'Ordre des avocats de Paris se refuse toujours à mettre en place cette assurance perte de collaboration. Eh bien, aujourd'hui, les cabinets d'avocats le payent. Ils n'arrivent plus à recruter de collaborateurs. Les jeunes avocats ne veulent plus de ce statut précaire. Ils sont encore plus précaires que les intermittents du spectacle qui, eux, ont un bon système d'assurance chômage.
Vous êtes l'un des avocats en France les plus suivis sur les réseaux sociaux avec près de 400 000 followers, tous réseaux sociaux confondus, et vous êtes le numéro 1 sur YouTube. En quoi exactement ça a changé votre manière de pratiquer? J'imagine que cette exposition aussi vous offre énormément d'opportunités. Il y a énormément de gens qui viennent vers vous. Comment est-ce que vous avez géré du coup cette nouvelle notoriété, on peut presque dire cette nouvelle célébrité?
Alors cette célébrité, je ne vais pas vous dire que je ne l'ai pas recherchée, mais en tout cas je ne m'y attendais pas. Moi, ce que j'ai fait, c'est démocratiser le droit, partager mes conseils juridiques gratuitement auprès des justiciables. Et je pense qu'il y a une forme de reconnaissance de la part des justiciables. C'est vrai que les cadres qui viennent me voir commencent par me dire « Merci maître, merci pour tous ces conseils que vous donnez gratuitement sur Internet. Ça m'a beaucoup aidé, ça fait des mois que je vous suis et ça m'a aidé dans mon affaire et maintenant j'ai besoin de vous consulter. » De la même manière, en droit pénal, je donne beaucoup de conseils aux gens pour qu'ils puissent faire respecter leurs droits et ils en sont reconnaissants alors, en me suivant et parfois en me consultant.
Et à votre avis, qu'est-ce que ça dit de la société française de voir qu'un avocat qui parle de droit du travail sur les réseaux sociaux trouve un écho aussi fort ? Chacune de vos vidéos fait plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de vues sur les réseaux sociaux auprès de jeunes, de moins jeunes. Qu'est-ce que ça vous dit de la société française et du monde du travail en France ?
Je pense qu'il faut garder à l'esprit que la majorité de la population française est salariée. Il y a un petit peu plus de 20 millions de salariés en France. Donc le droit du travail, c'est des questions du quotidien qui intéressent tout le monde. Un cadre passe plus de temps avec son entreprise qu'avec sa famille.
Alors, cette exposition, du coup, sur les réseaux sociaux, cette exposition médiatique vous permet aussi de vous faire connaître d'innombrables salariés, cadres et non-cadres. En quoi la défense des cadres est-elle spécifique par rapport à la défense de salariés dans les entreprises?
Alors, cadre, c'est un statut particulier. D'abord, effectivement, il y a tout un tas de règles. Le préavis de rupture n'est pas le même, c'est 3 mois. Et puis, un cadre, normalement, même si on a perdu un petit peu ce sens-là, normalement, un cadre, ça encadre. Donc, ça a des équipes avec des subordonnés. Et ces subordonnés sont, à un moment donné, susceptibles de se plaindre de mauvais management, de souffrance au travail, voire de harcèlement. Donc, je défends beaucoup de cadres qui sont victimes de harcèlement, mais aussi des cadres qui sont accusés de harcèlement. Donc, effectivement, le statut de cadre est très spécifique. Et puis, je défends aussi parfois des cadres supérieurs, des cadres dirigeants qui, en plus de leur rémunération, vont avoir des actions. Alors, ça peut être des RSU, des LTI, des BSPCE, des AGA. Et il faut maîtriser effectivement ces questions juridiques pour pouvoir négocier correctement leur départ, pouvoir négocier les indemnités sur leur salaire, mais aussi négocier le sort de leurs actions.
Et vous le faites du coup pour les cadres français, mais également étrangers qui travaillent sur le territoire français,
les expatriés. Effectivement, je défends et je conseille beaucoup de cadres étrangers expatriés en France et aussi de cadres français expatriés à l'étranger. C'est effectivement des règles particulières et puis il vaut mieux parler anglais. Donc ça tombe bien, comme j'ai étudié 1 an à Londres, je peux parler directement en anglais avec eux et aussi avec mes interlocuteurs dans l'entreprise pour négocier le départ. Mon premier conseil fondamental aux cadres qui sont en difficulté dans leur entreprise, c'est de consulter rapidement un avocat. Il ne faut pas attendre une convocation à un entretien préalable ou une mise à pied conservatoire. Il faut anticiper cela dès les premiers signaux. Il faut consulter un avocat pour commencer à préparer son dossier et le moment venu, être en position de force pour négocier son départ.
Oui, parce qu'en général, les cadres qui viennent vous voir, au moment où ils viennent vous voir, c'est souvent... Alors, je ne dirais pas que c'est déjà trop tard, mais disons que la procédure de licenciement, elle est déjà souvent avancée, ou bien alors l'entreprise a eu le temps de monter un dossier contre le cadre. Vous préconisez vraiment de venir vous consulter dès les premiers signaux.
Effectivement, si le cadre attend d'être convoqué à un entretien préalable de licenciement et qu'il saisit ensuite l'avocat, malheureusement, l'avocat arrive après la guerre. Il n'a plus du tout les mêmes armes pour pouvoir négocier le départ. Pour moi, le talent d'un avocat en droit du travail qui représente des cadres, c'est de créer une situation qui amène l'entreprise à la table des négociations. S'il y a procès, c'est un échec. C'est que l'avocat n'a pas eu une stratégie suffisamment offensive, suffisamment persuasive pour que l'entreprise négocie assez rapidement.
Et en général, quelles sont les demandes principales qui ressortent lorsqu'un cadre vient vous voir et vous demande de l'aide? Est-ce que c'est clore le chapitre le plus tôt possible? Est-ce que c'est un chèque de départ le plus important? Vous voyez ce que je veux dire?
Un cadre qui vient me voir, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une négociation amiable, il ne veut pas de procès. Il veut une négociation rapide, parce qu'il veut passer à autre chose et trouver un nouveau poste dans une autre entreprise. Il veut la discrétion et la confidentialité, parce qu'il veut préserver sa réputation professionnelle pour l'avenir. Et il veut la sécurité financière, c'est-à-dire suffisamment d'indemnités pour payer ses impôts de l'année précédente, continuer à assurer ses crédits immobiliers, et puis avoir de quoi vivre jusqu'à retrouver un nouvel emploi. Voilà, ça, c'est les 4 objectifs à atteindre. C'est notre mission d'avocat quand on conseille un cadre pour son départ négocié.
Est-ce qu'il y a un secteur où vous êtes particulièrement prisé
La banque.
C'est vrai? Ouais. On peut le dire.
C'est vrai que depuis bientôt 20 ans, je conseille beaucoup de cadres de banque, parce qu'ils ont une convention collective très particulière, très favorable et très protectrice. Il faut la maîtriser, il faut la connaître pour pouvoir bien les conseiller. Et puis, surtout, les banques ont une particularité, c'est qu'ils sont assez litigation shy, ils n'aiment pas le contentieux. Et effectivement, bah, il faut le dire, il faut être honnête, on peut en jouer dans la négociation, surtout si elles ont face à elles un avocat comme moi qui médiatise les affaires, qui amène des journalistes à l'audience. En général, elles préfèrent éviter cela et elles préfèrent une négociation discrète et rapide.
Maître Abby Bitton, merci beaucoup d'être passé sur le podcast Anomia. Ça faisait longtemps qu'on souhaitait vous inviter et c'était très intéressant.
Merci. Merci à vous pour votre invitation.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.